On va lire ensemble. On avait vu l'exemple d'Abraham. On a vu ça la semaine dernière. Et on peut lire peut-être à partir du chapitre 4, verset 23. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Et puis le chapitre 5, le passage qu'on va regarder ce matin. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Amen. Alors, on continue dans notre étude et on a passé jusqu'ici le temps avec Paul à regarder le fait que tous les hommes sont pécheurs, que tous les hommes ont un problème vis-à-vis de Dieu et que tous les hommes ont besoin d'être justifié par la foi en Jésus. Il passe les premiers chapitres à montrer que tous les hommes sont des pécheurs, qu'on a tous un problème, qu'on est tous, aucun d'entre nous en tant qu'homme n'arrive à atteindre l'objectif, le standard, l'exigence que Dieu a fixé pour nos vies. Pour être justifié devant lui. Et ensuite, il va montrer que on a ce problème et la réponse, c'est pas de faire plus, de trouver la solution, de trouver les rites ou les choses à faire. Il va montrer que la loi que les Juifs essayaient de suivre pour être justifiés ne permet pas d'être justifié, elle permet seulement de montrer qu'on n'y arrive pas, que ces règles et ces rites, on n'y arrive pas. Et ce qu'il présente ensuite, c'est l'idée, il dit en fait on a besoin d'autre chose, et cette autre chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Et l'idée que Dieu a pourvu la solution pour que nous puissions être justifiés juste en croyant en Jésus en tant que sauveur, en disant Dieu, c'est toi qui t'occupes de régler ce problème que nous avons vis-à-vis de toi. Et l'idée, c'est que si quelqu'un accepte la mort et la résurrection de Jésus en y croyant pour être sauvé vis-à-vis de Dieu, alors il y a un fait instantané, quelque chose de spirituel qui se produit, et c'est le fait que nous sommes à ce moment-là justifiés devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous regarde et dit « c'est bon, lui il est justifié ». dans l'épître et dans la vie chrétienne, c'est le point de départ. Ensuite, on va regarder plus après dans la lettre, pas ce matin, mais plus tard, l'idée de la sanctification, c'est-à-dire que on est justifié, Dieu nous dit c'est bon, vous êtes accepté, c'est payé. Mais ensuite, il veut quand même que nos vies changent et que nous devenions plus comme Jésus, que nous ne commettions plus autant de péchés qu'avant, que notre comportement, que nos vies changent et deviennent ce que lui veut que nos vies soient. Et donc, cette idée, quand nous sommes justifiés, c'est l'idée qu'on a une dette vis-à-vis de Dieu, on a quelque chose qu'on doit payer à Dieu, qu'on n'arrive pas à payer, et cette justification, c'est le fait de dire c'est bon, il a payé, il a réglé le problème, et cette chose-là est réglée. Et dans ce passage aujourd'hui, à partir du chapitre 5, on va regarder certains des fruits ou des bénéfices, les bénédictions que nous avons grâce à cette justification. Le fait que nous sommes justifiés va nous permettre ensuite de bénéficier de choses de la part de Dieu. On va le regarder, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable, de quelque chose de formidable. L'idée qu'on croit à Jésus, on accepte ce qu'il a fait pour nous, et à ce moment-là, non seulement on est justifié, on a le tampon, notre problème vis-à-vis de Dieu est réglé, mais en plus, on va recevoir des choses. En plus, on va avoir des bénéfices en plus de ça, en plus de juste être justifié vis-à-vis de Dieu. Pardon. Alors on peut regarder. Il y a quelques trios, on pourrait dire, dans ce passage. On va regarder Paul qui écrit aux chrétiens à Rome. Il va leur parler du passé. Il leur dit, vous avez été justifiés par la foi, donc dans le passé. Le présent, nous sommes bénis parce que nous avons été justifiés. Et le futur, les bénédictions à venir. Et ensuite, un autre trio, on peut voir trois bienfaits. Il y a la paix vis-à-vis de Dieu, il y a la grâce et il y a la joie. Et puis, par rapport à cette idée de joie, on peut regarder trois niveaux. Une joie dans l'espérance de ce que Dieu a pour nous, une joie que nous pouvons avoir dans les difficultés de la vie présente, et une joie simplement en Dieu lui-même, dans notre relation avec lui, dans le fait de le connaître. Alors si on regarde le premier verset, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc le premier fruit ou la première conséquence de notre justification, c'est que nous avons la paix avec Dieu. On peut en noter pour commencer que la Bible nous parle parfois de la paix de Dieu, le fait que Dieu nous donne une paix qui peut-être semble illogique au regard de nos circonstances physiques et matérielles. Mais ici, c'est l'idée que nous sommes en paix avec Dieu. Et c'est une bonne chose d'être en paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est la paix ? C'est l'absence de conflit, c'est l'absence de bataille, de lutte. Et on est d'accord que c'est une bonne chose d'avoir la paix dans nos vies, qu'on aime bien avoir la paix dans nos sociétés, qu'on aime bien ne pas être tout le temps en guerre quand on va au travail, quand on se déplace, quand on Il y a beaucoup de pays où ça n'est pas la réalité, où il y a la guerre, il y a des luttes physiques les guerres dans ce monde sont un gros problème. L'absence de paix est un gros problème. Mais l'homme ne se rend pas toujours compte, et nous nous rendons pas toujours compte, que notre plus grave problème en tant qu'homme, si nous ne sommes pas justifiés, c'est que nous sommes ennemis de Dieu. La Bible présente une situation, l'humanité, comme, disons que la vision du monde de la Bible, ce que la Bible nous explique sur le monde, c'est que le monde a été créé, que Dieu existe, Dieu a créé le monde, l'homme a péché, et à cause de ce péché est tombé et se retrouve en situation d'opposition à Dieu. Il est ennemi à Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est un problème si nous sommes en guerre avec Dieu? C'est parce que on va perdre. L'issue finale, c'est l'enfer. Et c'est quelque chose de sûr. La Bible nous le présente et dit vous avez, il y a pas moyen d'y échapper. Alors, nous, parfois, et surtout si nous sommes pas croyants, on peut avoir une fierté et dire mais on pense qu'on peut expliquer des choses à Dieu ou qu'on va pouvoir y arriver à le faire changer d'avis, ou je sais pas exactement, mais c'est vraiment un problème. Et on a besoin de ne plus être ennemi de Dieu. Et pour ne pas être ennemi de Dieu, on doit être justifié et on doit avoir la paix avec Dieu. Et un des commentateurs que je lisais, il présentait une image un petit peu, il disait c'est un petit peu comme si vous êtes dans votre voiture en train de faire 250 sur l'autoroute avec la musique à fond et vous n'entendez pas les sirènes des policiers qui arrivent. Le fait que vous n'entendez pas les sirènes ne remet pas en cause la réalité que la fin arrive et qu'il va avoir des conséquences. Et dans notre vie humaine, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas chrétiens, si souvent de nos jours, si on leur parle, ils disent ah oui mais Dieu j'y crois pas. La Bible nous dit que Dieu existe et nous croyons cela. Si c'est la vérité, alors il y a vraiment un souci pour les gens qui n'y croient pas et qui ne sont pas en paix avec Dieu, parce qu'il arrive avec ses sirènes et même s'ils l'entendent pas, il va avoir des conséquences. Il y a plusieurs passages qui nous expliquent que Jésus et notre paix avec Dieu, que c'est à travers lui. C'est quelque chose de vraiment intéressant dans ce passage et dans d'autres passages que Paul présente, où il nous explique plein de choses, et l'idée c'est toujours que c'est à travers Jésus, c'est par Jésus que nous avons ces choses, c'est par Jésus que nous obtenons ces choses, que Jésus est la clé de voûte de toutes ces idées. Dans notre texte, on va voir plusieurs fois que c'est par son intermédiaire au verset 2, au verset 11, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. Ça revient toujours à Jésus, et la Bible nous dit à plusieurs endroits que Jésus est notre paix. On peut se tourner dans Éphésiens 2. J'aime bien quand on étudie un passage comme ça et qu'on va se tourner dans d'autres passages de la Bible et qu'on lit, et on a des fois l'impression qu'on a les mêmes choses redites de manière différente, avec différents aspects, mais des fois c'est tellement un bon commentaire. On peut lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 1. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On voit ici qu'il développe toute une idée par rapport à Jésus, par rapport à l'idée que c'est lui qui est notre paix, que c'est en lui que nous avons la paix avec Dieu. C'est grâce à lui que nous pouvons être en paix dans la famille, que nous sommes dans l'Église. En tant que chrétien, on pourrait regarder cette idée que les choses sont centrées sur Jésus et passent vraiment à travers Jésus aussi dans Colossiens 1. On ne va pas s'y tourner, mais vous pouvez le lire si vous voulez. Alors nous avons la paix avec Dieu. Et c'est une bonne chose. On va, en conclusion peut-être de l'étude, on va parler de cette idée de réconciliation, cette idée que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous avons la paix avec lui. Mais je vous encourage à y réfléchir peut-être plus tard dans la journée, plus tard cette semaine, de vous dire, alors ça va avec l'idée de la grâce, mais c'est cette idée simple que là, actuellement, si vous croyez en Jésus, vous avez la paix avec Dieu. Il y a un calme avec Dieu. Quel que soit on a parlé de l'idée en tant que chrétien, une fois qu'on est justifié, on continue à pécher, notre nature est toujours là, on est toujours à tomber, à chuter. Et parfois, on laisse ces choses, on laisse l'ennemi planter des doutes dans notre esprit et nous dire « notre conscience, on est un petit peu en difficulté vis-à-vis de Dieu et on se dit « je veux pas aller à l'église, je veux pas vraiment prier, je veux pas lire ma Bible parce que là, j'ai pas respecté les règles, j'ai pas bien fait ce qu'il fallait. » Et l'idée, c'est nous avons cru et nous sommes justifiés. Nos péchés ne remettent jamais en cause cette justification et ne remettent pas en cause l'idée que nous avons la paix avec Dieu, que nous sommes vis-à-vis de Dieu OK. Et c'est quelque chose d'incroyable et on a du mal à l'accepter. Et ça va avec l'idée de la grâce. Si on regarde le verset 2, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. On peut dire que le deuxième fruit, on a la paix avec Dieu et on a aussi la grâce. On est au bénéfice de la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est l'idée d'une faveur imméritée que nous recevons de la part de Dieu. Si on réfléchit à différents mots qui s'y comparent, on peut parler de la justice. C'est recevoir ce que nous méritons. Si on fait quelque chose de bien, on reçoit quelque chose de bien. Si on fait quelque chose de mal, on est puni. Ça, c'est la justice. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. C'est je fais une faute et on me dit ouais, t'as fait une faute, mais allez, je passe dessus, c'est bon. Je vais pas te punir comme ta faute le mérite. Ça, c'est la miséricorde. Et la grâce, c'est au-delà. La grâce, c'est je te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Et la grâce, là aussi, c'est des idées. La grâce de Dieu, c'est quelque chose. Je vous encourage là aussi peut-être à y réfléchir, à méditer là-dessus, à y penser. La grâce, c'est Dieu. Dieu vous regarde avec des yeux, avec une faveur et avec l'envie de vous bénir, malgré la réalité de qui je suis, malgré la réalité de qui nous sommes. Parce que j'ai été justifié et je suis justifié et donc je suis au bénéfice de cette grâce. Quand j'étudie, j'ai deux petits enfants, Daphné et Django, et depuis que j'ai eu des enfants, à chaque fois que je prépare des études dans la Bible, je me dis que le fait d'être parent, c'est peut-être un des meilleurs moyens dans la vie d'arriver à comprendre Dieu mieux. L'idée, si vous avez des enfants, vous savez qu'ils n'obéissent pas toujours, qu'ils ne font pas toujours ce que vous voulez, qu'ils font des fautes, qu'ils font des bêtises, qu'ils ont leur propre volonté, qu'ils sont rebelles. C'est pareil pour tous les parents. Mais en tant que parent, quand vos enfants ne font pas ce que vous demandez sur l'instant, quand ils vous énervent, vous pouvez imaginer, pour ceux qui sont parents, vous le savez, pour les autres, vous pouvez imaginer, mais les moments où ils vous poussent à bout ne remettent jamais en cause le fait que vous voulez leur bien, qu'en même temps, vous êtes en train de vous dire « Ah, tiens, qu'est-ce que j'espère pour eux dans la suite de leur vie ? Je veux qu'ils grandissent, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils développent leur passion, que leurs envies et leurs désirs puissent être remplis. Vous voulez que vous pensez, tiens, c'est quand leur anniversaire, qu'est-ce que je peux avoir comme cadeau ? Tiens, qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Moi, je me retrouve à penser tout seul, à des moments où je vois quelque chose en ville et je me dis, tiens, peut-être que ça ferait plaisir à ma fille ou tiens, ça serait peut-être bien pour son anniversaire ou quelque chose comme ça. Et Dieu nous regarde comme ça. On peut être en train de faire des bêtises, en train de pécher, en train d'être à côté de la plaque complètement, mais ça ne va pas l'arrêter de se dire, j'ai envie de bonnes choses pour mon enfant. Et c'est quelque chose... Je pense qu'en tant que chrétien, on tombe tellement souvent sous la loi. On retombe sous la loi. On retombe sous la. Ah pardon, Seigneur. J'ai ah non je ah, j'ai péché, aïe, 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 aïe. Et la grâce, ça devrait tout changer dans notre rapport à Dieu. On voit dans ce passage que grâce à Jésus, nous pouvons tenir ferme dans cette grâce. On est justifié et donc on a droit à cette grâce. Même si on pêche, même si on chute, Dieu veut que nous nous repentions, il veut que nous cherchions à lui obéir et à être sanctifiés, à devenir plus comme lui dans notre vie. Mais le fait que nous sommes justifiés, que nous avons été justifiés, nous donne accès à cette grâce et nous pouvons dire « j'ai accès à cette grâce ». Et l'ennemi vient et nous dit « ouais, non, t'as pas le droit, t'es mauvais, t'es pas assez bien ». Et la parole de Dieu, la vérité, c'est que je peux tenir ferme et dire « non, non, je suis justifié, j'ai droit à cette chose et Dieu, j'ai la paix avec Dieu et je suis dans la grâce ». Et on a parlé de la justice, on a parlé de la miséricorde et on a parlé de la grâce. Et souvent, nous, quand on pense à la grâce, quand on pense à Dieu, on se dit le fait que je sois justifié, que je sois sauvé, ça me permet juste d'être OK. On est sur du... Comment je pourrais dire ? Parfois, je reçois pas ce que je mérite. Je mérite le jugement et la colère de Dieu. Donc je reçois pas ça et je me limite à ça, comme si derrière tout ce que je pouvais avoir dans la vie, c'était il fallait. Donc je suis justifié et maintenant tout le reste, je dois le mériter. Tout le reste, je dois travailler pour l'avoir. Tout le reste, je dois faire des efforts. Maintenant, OK, j'ai été justifié, ça a été gratuit. Ma foi en Jésus-Christ m'a permis d'être justifié gratuitement. Et je me dis, OK, maintenant c'est à moi de faire le travail. Maintenant, je mets mon bleu de chauffe. Et si je veux avoir de bonnes choses maintenant, ben, il faut que je fasse le reste. Non. Paul prévenait les Galates et leur disait, vous êtes... En paraphrasant, il leur disait « Mais vous êtes fous, vous avez commencé avec la grâce et maintenant vous voulez continuer avec la loi, vous venez finir par vous-même. » Il dit « Non, la grâce, ça va aussi au-delà. » C'est-à-dire qu'on est justifié, on a la paix et en plus, on reçoit des bénédictions et on a un accès privilégié à Dieu. En plus du fait qu'on n'est pas juste puni. Donc non seulement on est justifié, on n'a pas la punition qu'on mérite, mais en plus on reçoit des choses, des cadeaux, des bénédictions, de bonnes choses de la part de Dieu. Et il y avait un commentateur qui résumait un petit peu cette idée en parlant de la bonne attitude que nous devrions avoir quand nous nous tenons dans la grâce. Et il disait, quelques points, il disait, si nous sommes dans la grâce, nous devons croire que nous sommes aimés de Dieu, même si nous n'en sommes pas dignes. Il disait, on doit refuser ou faire attention à l'idée de faire des vœux et prendre des résolutions vis-à-vis de Dieu, parce que d'une certaine manière, c'est revenir à la loi, c'est revenir à la chair, se dire, j'ai été justifié, mais maintenant je fais confiance à moi-même pour obtenir les bénédictions, pour obtenir les choses de la part de Dieu. Il dit, il faut faire attention à ces choses-là, à ces idées-là. Il dit, si nous sommes sous la grâce, nous devons nous attendre à être bénis, tout en réalisant que nous ne le méritons pas. Mais est-ce que vous venez à Dieu en vous disant, je m'attends à être béni, Dieu va me bénir? Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais juste parce que lui a tout fait, parce que lui nous a justifiés et nous permet par Jésus d'obtenir cette grâce que on peut se dire Dieu va me bénir. Est-ce que vous dites ce matin, Dieu veut me bénir, Dieu veut me donner de bonnes choses, pas parce que j'ai bien agi ce matin, pas parce que mes pensées ce matin sont bonnes, pas parce que j'ai lu la parole de Dieu ce matin, pas parce que j'ai pris du temps à prier, pas parce que je me suis bien rasé, etc., etc., toutes les choses auxquelles vous pouvez penser le matin. Dieu veut vous bénir et va vous bénir si vous croyez en Jésus et que vous êtes justifié, il va vous bénir. Il veut vous bénir, il veut nous bénir, il travaille à nous bénir. Alors, il y a parfois, je pense que quand on parle de bénédiction, on pense uniquement à des bénédictions matérielles, parfois de manière peut-être humaine. On aime bien les bénédictions matérielles, on aime bien les choses dans nos circonstances, dans la vie ici. Il peut nous bénir de cette manière-là, mais je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il veut nous bénir spirituellement et qu'il y a, lui s'intéresse pas seulement à notre bien-être matériel, mais il s'intéresse à notre bien-être spirituel, à notre futur. On va regarder dans la suite, mais si on est sous la grâce, on devrait parler de la bonté de Dieu tout le temps. Si on est sous la grâce, on devrait être certain de sa faveur envers nous. Comme je vous disais avec Daphné, comme je vous disais avec Django, quelles que soient mes fautes du moment, du jour, Dieu me regarde comme un papa, avec bonté, avec envie de bénir, avec envie de donner de bonnes choses, avec envie de voir son enfant se réjouir. Tout en ayant une conscience attentive à ce qu'il veut, évidemment, comme je vous ai dit, il veut que nous obéissions. Et on va regarder dans le texte après. Si on est sous la grâce, on devrait regarder la correction de Dieu comme une bonne chose, comme une preuve de sa considération. Il investit, il veut corriger, il veut bénir aussi à travers ces choses-là. On va le regarder après. Et donc c'est Jésus qui nous introduit à cette grâce. Et c'est un peu comme si quelqu'un nous introduit à la cour du roi. C'est Jésus qui nous prend et qui nous dit « Viens, je vais t'introduire, je t'amène et maintenant tu es là et tu as cette place. » Et cette place, personne ne peut te l'enlever et tu peux rester là. C'est pas comme si on avait le droit à 2 minutes de la part de Dieu et qu'on vient et qu'on salut Dieu, je m'appelle Tonio, merci. À plus tard, je sais que t'es occupé. Non, c'est là aussi, encore une fois, les exemples des enfants. Si vous êtes parents, vos enfants, ils ont tout le temps accès. Ils ont tout le temps, la nuit, ils gueulent depuis leur chambre parce qu'ils savent que vous allez venir, que vous écoutez, que vous êtes là. L'idée d'avoir accès à ses parents, alors évidemment, il peut y avoir de mauvais exemples, de mauvaises familles ou des choses comme ça, ou certaines situations, mais vous comprenez l'idée qu'on a accès. C'est une chose intéressante aussi de se dire, dans notre monde, si vous pensez aux gens célèbres, si vous pensez aux gens puissants, pensez à, j'en sais rien, des stars, de cinéma, de sport, des présidents, des politiciens, est-ce que vous pensez que leurs enfants, ils n'ont pas accès? Sauf si c'est des familles un peu bizarres ou dysfonctionnelles, évidemment, mais un enfant de président, il rentre dans la pièce, il dit « Salut papa, j'ai une question à te poser. » S'il est en train de négocier la paix avec entre on ne sait pas quel pays ou d'envoyer des missiles sur la Lune, on a accès, quoi. Il y a quelque chose là. Et là, nous pouvons tenir ferme dans cette grâce que nous avons cet accès vis-à-vis de Dieu et que nous avons cette position et on ne peut pas nous l'enlever. Et donc je vous disais, la bénédiction, nous on pense souvent au matériel, mais évidemment nous, ce que Dieu veut pour nous principalement, c'est que nous devenions plus comme lui, que nous ayons une relation avec lui, premièrement, mais que nous devenions de plus en plus comme lui. Et pour ça aussi, il faut que nous ayons une bonne attitude et une bonne perspective et que nous méditions et que nous réfléchissions à ça, de nous dire qui est Jésus et de se dire Dieu travaille aussi à me faire devenir comme lui. Et pourquoi c'est une bonne chose et pourquoi c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Parce que évidemment, si on n'y pense pas et si on laisse ça, si on n'y réfléchit pas, on peut être tenté malheureusement de dire ouais, être comme Jésus, ouais c'est bien, mais j'aimerais plutôt avoir une belle maison et une belle voiture quoi. Et on peut avoir la mauvaise perspective et donc on doit passer du temps et réfléchir au fait que Dieu veut nous faire devenir comme Jésus. Et comme je vous disais, il nous donne, il travaille lui-même, il est actif là-dedans. Jésus est mort et ressuscité pour notre justification, mais il est au ciel en train de prier pour nous et d'intercéder pour nous pour que nous devenions plus comme lui. Il y a le passage qui dit c'est lui l'auteur et le perfecteur de notre foi. Et ça va être ce qu'on voit après, l'idée que nous pouvons nous réjouir dans les difficultés, parce que les difficultés sont quelque chose que Dieu utilise pour nous rendre comme lui, pour nous purifier, pour enlever les mauvaises choses, pour nous tailler en quelque sorte à son image et pour nous rendre comme lui. Alors on va le regarder après. Je voulais juste, avant de passer au verset 3, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Cette idée de nous plaçons notre fierté, dans d'autres traductions, il est dit nous nous glorifions, et on pourrait dire ce qui nous réjouit. Et j'avais un petit peu de mal à comprendre. Alors, si je vous dis je me glorifie, ça veut pas forcément, on sait pas trop ce que ça veut dire. Je pense que la bonne idée, c'est de se dire ce qu'il est en train de dire là, quand nous plaçons notre fierté, il va l'utiliser plusieurs fois dans ce passage, c'est l'idée que nous avons une fierté avec de la joie, pas une fierté mauvaise. Ça peut être une fierté comme vous pouvez avoir quand votre équipe nationale, par exemple, gagne la Coupe du Monde et que vous êtes dans la rue à vous réjouir, à avoir une joie lié à la fierté d'appartenir à quelque chose. Pour les Allemands, ils ont eu le droit à la dernière Coupe du Monde. Ça peut être le fait de... Je connais des gens qui sont très fiers et joyeux d'appartenir à une certaine famille ou d'être d'une certaine nationalité. Parfois, ça peut être dans le monde, ça peut être peut-être l'entreprise où vous travaillez ou j'en sais rien, mais... L'idée de nous plaçons notre fierté dans, c'est cette idée que nous nous réjouissions avec une fierté dans le fait que nous sommes dans cette famille et c'est quelque chose aussi, je pense, de vocal, de quelque chose où nous l'exprimons entre nous et aussi aux gens du dehors. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ce passage-là, ça me faisait penser à là aussi, si on réfléchit dans le monde, est-ce que j'ai des amis ? J'ai pas forcément d'amis célèbres ou d'amis très puissants. Peut-être dans le monde chrétien, il y a certaines situations éventuellement, mais imaginez que vous êtes ami avec Zinedine Zidane et vous promenez en ville avec lui et que vous allez prendre un café, course à Leia, que vous êtes posé. Et là, il y a les gens qui viennent et il y a une sorte de gloire qui est autour de la personne. Et vous, vous êtes là et vous en profitez parce que vous êtes l'ami, parce que vous avez une connexion avec cette personne-là. Il y a un petit peu cette idée ici avec l'idée qu'on est avec Dieu et lui a une gloire incroyable. Les cieux sont remplis de sa gloire dans les images que nous voyons dans l'Apocalypse, par exemple. Et nous, on est amis avec lui, on est là à côté, on profite de cette gloire avec lui. Ça, c'est quelque chose, là aussi, d'incroyable qu'on a cet accès, qu'on a le droit à cette relation. On passe de quelqu'un qui est ennemi de Dieu, qui est contraire, qui est contre lui, qui mérite sa colère. Dans Éphésiens 2, on a parlé de la paix de Dieu que nous avons en Jésus, et il y avait un passage où il dit « Nous étions autrefois des enfants de colère, nous étions destinés à la colère. » On est ennemi de Dieu, et en tant qu'ennemi de Dieu, on mérite la colère, et de ça, on passe à non seulement il nous pardonne, donc on n'est plus ennemi, mais en plus, on devient, c'est comme si on devenait meilleurs amis et qu'on est assis à la table avec la personne la plus célèbre et la plus puissante de l'univers, et on en profite, quoi. Ça doit nous remplir de joie, ça doit être quelque chose à laquelle nous réfléchissons. Si vous levez le matin, quand je me lève le matin, je sais pas moi, une chose ces derniers temps qui me fait de la peine, on va dire, et avec laquelle je lutte un petit peu et qui me frustre et où j'ai l'impression de passer par des difficultés. Alors évidemment, c'est des difficultés de personnes qui habitent en France, mais on cherche un nouvel appartement et on habite au premier sans ascenseur et on a la poussette et Lindsay, on a les deux petits enfants et si on, avec la poussette et les deux enfants et les affaires, Lindsay, elle peut pas descendre toute seule. Alors on laissait la poussette dans la cour. Quelqu'un nous a volé la poussette. Donc on avait les moyens, on a pu remplacer la poussette. Mais maintenant, du coup, je dois remonter la poussette à chaque fois dans l'appartement, etc. Et il y a des matins où Lindsay, elle doit aller faire quelque chose et moi je me lève et je suis un petit peu de manière interne, je râle quoi vis-à-vis de Dieu. Je dis. Dieu, ce serait bien qu'on ait un autre appartement, tu vois, ce dont on a besoin. Et c'est tellement... Alors, je ne pense pas que je sois irrationnel ou que je sois dans une situation où je veux une Ferrari rouge avec une maison immense, etc., etc. J'ai le sentiment que c'est des besoins. Mais quand je lis ce passage-là et quand j'enseigne ce que j'enseigne ce matin, je me dis, c'est ridicule. Je me lève... J'ai droit à tout ça. Je me lève et je suis pote avec Dieu. Alors, toute proportion gardée, sans manquer de respect, mais j'ai accès à Dieu. Je peux me lever le matin et me réjouir, me dire, aujourd'hui, je peux aller prendre un café avec Dieu et profiter de sa présence. Lui parler, je peux être avec lui. Et donc ça appelle le verset 3 pour moi et cette idée de, alors c'est pas une détresse évidemment, mais au verset 3 donc il dit bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Et le verset 5, or cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans le passage précédemment, on dit on a accès à cette grâce et on place notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et d'une certaine manière, on pourrait regarder ce passage et dire oui, d'accord, c'est le lointain futur, une fois qu'on sera au ciel, c'est un peu le côté. Oui, d'accord, c'est bien beau, mais moi, ma vie ici, maintenant, là, c'est pas évidemment. J'ai pas le sentiment de prendre part à la gloire de Dieu quand je suis dans les circonstances dans lesquelles je suis actuellement. Et Paul, il dit non. Et même dans la vie ici, même dans les difficultés, quelles qu'elles soient, évidemment, pour moi, ce que je vous partageais C'est un peu ce qu'on, c'est les difficultés de personnes qui habitent en France, comme je vous disais. J'ai pas à me soucier pour ma sécurité, j'ai pas à me soucier pour ma nourriture, j'ai pas ma santé, etc. Je suis pas comme 90% de la planète peut-être qui se lève le matin, qui sait pas s'ils vont avoir à manger ou à boire, etc., etc. Donc évidemment, mais Dieu voit ces choses et Paul il dit non, même dans les détresses, on peut se réjouir des détresses, on peut se réjouir des difficultés. Pourquoi ? Parce que Dieu utilise ces choses, ces difficultés dans nos vies pour produire des choses en nous, pour nous rendre comme il veut. Et il explique ici, il parle de la détresse qui produit la persévérance, de la persévérance qui produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Alors, suivant vos traductions, il y a différents mots qui sont utilisés. La persévérance, c'est l'idée d'endurance ou de patience ou de fait de pouvoir endurer les difficultés. Ensuite, alors, dans cette traduction, il est marqué victoire dans l'épreuve. Dans d'autres, il parle de fidélité éprouvée ou de résistance à l'épreuve. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu que c'est le caractère qui est révélé, qui est endurci. Si vous connaissez le verset dans Job 23:10, où il parle du fait qu'il dit « Dieu, je ne sais pas où tu es, mais quand j'aurai traversé cette épreuve, tu m'auras purifié comme tu purifies l'or. » C'est cette idée que les difficultés, l'endurance, le fait de tenir dans les difficultés et de persévérer dans les difficultés va perfectionner notre caractère, va renforcer notre caractère spirituel, et qu'ensuite, avec ces choses, après tout ça, on a ensuite l'espérance. Et au verset 5, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par rapport aux détresses, par rapport à cette idée des difficultés, il y a d'autres passages aussi qui en parlent. Dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul aussi là dit on se réjouit de nos difficultés parce que ça produit pour nous un poids éternel de gloire, ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4. Là aussi, l'idée que les difficultés que Dieu permet dans nos vies produisent de bonnes choses pour nous dans l'éternité. C'est fou, c'est aussi cette idée de grâce, c'est-à-dire que nous on est souvent d'accord pour dire oui, alors s'il me donne de bonnes choses, des choses qui pour moi sont évidemment clairement de ce que moi je considère comme un terme de bonnes choses, c'est de bonnes choses. Et Paul est en train de nous dire que même les choses que nous considérons comme mauvaises ou difficiles dans nos vies, Dieu les permet pour nous donner de bonnes choses. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, bonne ou mauvaise dans cette vie, Dieu est en train de nous donner de bonnes choses. Ça aussi, toutes les circonstances de nos vies, quand nous sommes croyants, Dieu les utilise pour notre bien, ici ou pour l'éternité. Comme je vous disais, ça peut être spirituel ou matériel, mais les bonnes et les mauvaises choses, Dieu s'en sert pour notre bien, pour notre gain. Ça veut dire que nous pouvons nous réjouir même dans les difficultés. Dans Actes, il y a un verset dans Actes 5, 41, où les apôtres sont persécutés, et il est dit, une fois qu'ils sont libérés, qu'ils étaient contents parce qu'ils avaient été jugés dignes de pouvoir subir de tels outrages. Et là aussi, notre vie, ma vie, je me réjouis rarement des difficultés, des détresses. Et si nous sommes sous la grâce, si nous pensons à la grâce, si nous méditons à ce que c'est, nous devrions nous dire, waouh, ça aussi c'est pour mon bien. Super. Et alors on peut se dire, oui, mais d'accord, mais Dieu, tu peux faire les choses aussi par en me faisant que du bien et en sans les. Mais la réalité que nous présente la Bible, c'est que c'est quelque chose de nécessaire et que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il permet ces choses et nous avons besoin de ces choses pour être formés à son image et que c'est les choses qu'il utilise. Et Paul nous dit, et c'est pas le seul endroit, mais de nous réjouir dans ces difficultés, d'être content, de dire merci à Dieu et d'en profiter, de se dire c'est quelque chose de bien pour moi. Si on se met à souhaiter une vie sans difficulté, on est en train de dire à Dieu, je veux pas que tu fasses du bien dans ma vie à travers ces choses. On sait que Dieu sait combien nous pouvons endurer en plus, donc il va pas nous détruire. Il va faire les choses bien. Et la réalité de la vie aussi, c'est que nous allons subir des difficultés quoi qu'il arrive. La vie est avec le péché, avec la chute, avec la situation telle qu'elle est actuellement, il y a des difficultés. Et si nous cherchons pas à tout prix à les éviter ou à on peut pas. Si on peut se réjouir dans les difficultés, alors autant en profiter. Et si en plus on se dit que ce sont les choses que Dieu utilise pour produire ces choses, par exemple dans cette liste, on pourrait dire bon ben d'accord, je veux la persévérance, je veux un caractère bien trempé, je veux de l'espérance, mais les difficultés, non merci. C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Les exemples typiques avec le sport, avec la guerre, avec les combats, c'est l'idée que pour devenir plus fort, on doit subir des difficultés, on doit subir de l'entraînement, on doit être mis à l'épreuve, et à force, ça produit ces choses en nous. Alors ce verset 5, moi je l'ai lu et je me suis dit, ça me semble pas très logique. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors on comprend qu'une espérance peut tromper, qu'on peut espérer dans de mauvaises choses, qu'on peut espérer des choses qui ne vont pas arriver et que ça va nous décevoir. Mais ici il dit que c'est à cause de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, on ne va pas être trompé. Et ensuite, il va continuer les versets qui suivent à expliquer un petit peu pourquoi. Juste encore deux notes par rapport à ce verset 5. Paul est dans un texte où c'est énormément de logique, très, on pourrait dire de la logique très froide. A plus B, donc C, et donc ça prouve ça, on est presque dans une démonstration mathématique. Mais il reste des notes sur quelque chose au niveau des sentiments, au niveau de... Et là, on voit qu'au milieu de ça, on doit ressentir un amour de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit, ça ne doit pas être juste de la connaissance froide et non... qui atteint juste notre pensée. Et si vous me dites, mais je sens pas trop forcément l'amour de Dieu, il dit oui, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur, mais ouais, je sais pas trop, ça me semble un peu étranger. Paul nous dit aussi de prier pour être continuellement rempli de l'Esprit Saint, pour être rempli à nouveau, et que c'est par cet Esprit Saint qui vient dans nos vies que nos cœurs peuvent être remplis par cet amour de Dieu. Alors pourquoi est-ce que cet amour montre que notre espérance est solide. On peut lire ensemble à partir des versets 6. En effet, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. L'idée, c'est que on a un espoir en Jésus, on a cet espoir de devenir comme lui, on a cet espoir d'être sauvé. Et il dit, pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs de ça? Et il dit, parce que Dieu m'aime. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu m'aime et Dieu veut me sauver et Dieu, ce qu'il me promet, il va me le donner? Parce que quand on regarde l'histoire de Jésus, on voit que quand on était ennemi de Dieu, Dieu nous aimait déjà tellement qu'il est mort pour nous pour pouvoir nous sauver. Et donc maintenant que nous sommes justifiés, maintenant que nous sommes amis avec lui, que nous pouvons tenir ferme dans cette grâce qui nous regarde avec faveur, que Jésus est ressuscité, combien plus maintenant il va tout faire pour nous sauver et pour nous sanctifier, pour nous sauver. Ce que je vous disais, des fois on s'arrête à l'idée que Jésus est mort et ressuscité et qu'on est justifié, mais Jésus maintenant est vivant. Il dit au verset 10, « Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Donc maintenant on est réconciliés avec Dieu et Jésus est vivant et il est actif pour nous sanctifier, pour nous sauver. Et il veut que nous ayons cette assurance, cette espérance. Nous, parfois on lit ça et on se dit espérance, c'est là aussi un petit peu un truc hypothétique, machin, peut-être, on verra. Mais dans ce passage, on en a parlé dans Hébreux, c'est cette idée d'une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On est sûr. Peut-être, mais qu'on est sûr. Jésus est mort pour moi quand j'étais ennemi. Maintenant que je suis son ami, il va faire ce qu'il faut pour me changer et pour me sauver. Je voulais finir en parlant de cette idée de réconciliation. Là aussi, c'est tellement beau et c'est tellement quelque chose, je pense, dans notre monde qui est digne d'attention et digne de temps, de nos pensées. Cette idée que Dieu est un Dieu de réconciliation, un Dieu de renouveau, un Dieu qui restaure, qui rétablit, qui renouvelle, qui refait les choses. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous, en lui, nous devenions justice de Dieu. Le péché, la chute, le monde dans l'état sans Dieu, rebelle à Dieu, tel que nous le voyons actuellement, est divisé et en lutte. Le péché détruit, divise, arrache. Il suffit de regarder les nouvelles pour voir le péché dans le monde, dans la société, entre les nations, entre les personnes, entre les familles, entre vous-même. Je suis sûr que vous pouvez penser à des situations de où le péché détruit des familles, détruit des vies, détruit des tellement de choses. La Bible nous dit que Satan est un ennemi, un lion rugissant qui cherche à détruire. Mais nous, Dieu est un Dieu qui restaure, qui reconstruit, qui réconcilie, qui refait les choses. Et c'est tellement beau. Et c'est tellement... là aussi, c'est tellement incroyable. Lindsay et moi, malheureusement, on a un ami, des amis en commun, et un mariage qui est dans la difficulté, et le mari parlait de l'idée qu'il voulait un nouveau début, il voulait un nouveau quelque chose de nouveau. Et la réalité est que nos vies, nous sommes là, arrivés à notre point où nous en sommes aujourd'hui dans nos vies, et tout ce qui s'est passé avant est là. Et on n'a pas le droit à un nouveau commencement comme ça, sans ce qui s'est passé avant. Et on est dans le fil de notre histoire. Et si vous dites ce serait tellement bien si je pouvais recommencer, si je pouvais revenir, si je pouvais. Et des fois on se dit c'est dommage, etc. On pense au passé avec des regrets. Et en fait, nous, on devrait, en tant que chrétiens, regarder avec espoir ces situations, parce que dans la vie, la réalité est que sans Dieu, on peut pas avoir un nouveau comme ça où on est neuf et sans le passé. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais Dieu, lui, il nous réconcilie à lui et il reconstruit, il restaure, il refait. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. En lui, nous avons droit à ce nouveau. Et les choses mauvaises ou les choses difficiles ou les choses que nous regrettons dans le passé, lui peut les transformer et en faire quelque chose de beau et faire quelque chose de nouveau. Et c'est tellement incroyable. Nous étions ennemis avec Dieu, notre relation avec lui était brisée, mais lui, Jésus, a permis à ce que nous soyons réconciliés avec Dieu. Je vous encourage vraiment à peut-être à relire ce passage plus tard, dans la semaine, et à vous dire, je suis réconcilié avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu, je peux profiter de la grâce de Dieu, il m'aime. C'est fou. On était ennemis. Si vous dites quelqu'un, je sais pas moi, vous allez dans la rue et vous fusillez quelqu'un et leur famille vient et vous invite à manger chez eux et vous accueille comme étant partie intégrante de la famille, vous bénit et vous donne des cadeaux et vous appelle le matin pour voir comment ça va, etc. C'est ça l'image. On a, par nos péchés, par notre rébellion, parce que nous étions ennemis de Dieu, nous avons en quelque sorte tué Jésus, cloué Jésus à la croix, et en fait, Dieu l'a retourné, nous a réconcilié avec lui, et maintenant on a accès à lui, on est au bénéfice de tout ça. Alléluia. Prions. Seigneur, merci parce que tu as fait toutes ces choses. Tu nous as justifiés par la foi en toi. Ça, c'est fait. Et maintenant, nous avons la paix avec toi. Nous avons la grâce. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons mettre notre fierté, Seigneur. Nous pouvons parader et dire nous sommes tes enfants, nous sommes dans ta famille, nous sommes avec toi et tu nous aimes et tu veux nous bénir et tu me regardes avec faveur et tout ce qui m'arrive de bien ou de mal, Seigneur, tu arrives à l'utiliser pour mon bien. Aide-moi à changer ma perspective, Seigneur, dans la vie de tous les jours, pour voir les choses correctement, pour me réjouir des choses bonnes et des choses difficiles, Seigneur. Que tu es souverain et que tu es en train de travailler à mon bien, parce que je suis justifié, parce que j'ai donc le droit de profiter de ces choses, Seigneur. Merci pour ce temps ce matin, Seigneur. Bénis notre temps de communion fraternelle, Seigneur. Donne-nous de l'amour les uns pour les autres, Seigneur. Remplis-nous à nouveau ce matin de ton Esprit Saint pour avoir cet amour, Seigneur. Cet amour pour toi qui se démontre par notre obéissance à ta parole, Seigneur, et aussi notre amour les uns pour les autres, ici dans cette famille. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.